Bonjour et bienvenue à Pack the Pot. Alors moi c'est Terry Kaufman, TK, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby, et je suis très content d'être là avec Alban Borel, joueuse de Pink Rockets de Stade Français. Salut Alban.
Salut TK, salut à tous, ravi de te retrouver pour un nouvel épisode.
Oui, on a un super épisode aujourd'hui, une interview avec Rémi Martin. Et avant de présenter notre invité, tu as quand même vécu une super expérience toi-même. Tu étais le Special Reporter Pack the Pot lors du World Cup 2023 Draw. Donc explique-nous, comment t'es arrivé d'être invité et c'était comment cette expérience?
Alors je ne dis jamais, je ne révèle jamais mes secrets pour être invité à ce genre d'événement. Mais non, c'était plus via le travail. Donc j'ai eu la chance d'assister à cet événement qui généralement n'est pas forcément très ouvert au public, parce qu'en fait il s'agit d'une un peu plus d'une émission de télévision, on va dire, et là encore plus dans les conditions sanitaires qu'on connaît. Donc l'accès était assez limité, il y avait une centaine de personnes, et donc c'était assez incroyable d'être vraiment dans les backstage de l'événement, de la production. C'est comme si on était dans une production d'émission en fait. Donc il y avait toutes les caméras, les différents intervenants qui sont vraiment assis juste à côté de toi, comme si t'étais tes copains. Donc j'avais Chabal à une rangée de sièges devant moi, la porte, voilà, tous les intervenants que vous avez vus. Et non, c'était très sympa, il y avait vraiment une ambiance assez intéressante. J'ai croisé pas mal de joueurs aussi qui étaient tous contents. Et moi, ce qui me marque toujours dans le monde du rugby, par les différents moments auxquels j'ai pu assister, c'est que dès qu'on croise des joueurs, ils sont toujours hyper cool. Enfin,
ouais.
C'est vraiment des gens qui ne se prennent pas la tête, qui sont hyper contents à la fois de faire des photos ou juste de tchatcher avec des gens qu'ils ne connaissent pas du tout, mais qui sont plus timides que d'autres. Mais voilà, je trouve qu'il y a toujours un très bon accueil de ces joueurs qui, pour le coup, sont parfois sollicités, etc. Enfin voilà, ils ont vraiment pas le melon, comme on dit. Et je trouve que c'est toujours très agréable dans notre rugby.
Bah, c'était vraiment chouette de te voir parce que tu étais sur notre Instagram, tu faisais les stories de cette journée-là, et franchement c'était vraiment super, ça devait être une sacrée expérience. Tu as pu interviewer des joueurs un tout petit peu aussi, parler avec eux, prendre des photos, ça devrait être sympa comme tout. Et c'était quoi alors le feeling dans la salle lorsque Nouvelle-Zélande était pris dans la même poule que la France?
Alors c'est marrant parce qu'il y avait un petit, c'est vrai qu'il y avait un peu un suspense, et je sais pas pourquoi, je pense que tout le monde s'y attendait. Enfin, la France et la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde, c'est toujours des grandes histoires. Et quand Jean Dujardin a tiré cette dernière boule, voilà, tout le monde a eu un petit ah, comme si à la fois ah, on le savait, mais à la fois ah, on aurait préféré que ce soit autre chose quand même. Mais honnêtement, quand je vois notre poule, je trouve que c'est voilà, elle est plutôt abordable, on va dire. Je trouve que la poule de l'Angleterre est assez corsée, donc voilà, j'espère qu'on arrivera à sortir notre épingle du jeu, et peut-être qu'on retrouvera la Nouvelle-Zélande en finale ou sur les chemins des phases finales. Pas avant, j'espère quand même. Pas enfin, normalement, mais avant, en tout cas, ça marche pas, donc tant mieux.
Bon, tous les gars, on a 3 ans pour se préparer, et bonne nouvelle, comme Théo a déjà dit dans notre émission, normalement, on devrait être le podcast du Coupe du Monde 2023. Qu'est-ce que t'en penses?
Bien sûr, nous le serons.
Allez, si on parlait de notre invité aujourd'hui, donc c'est Rémi Martin. J'ai passé un bon moment avec lui. C'est quelqu'un qui a joué longtemps pour ton club préféré, Stade Français.
Tout à fait, effectivement, Rémi, qui a été un grand joueur de l'époque, de la grande époque du Stade Français entre 2001 et 2008 de mémoire, et qui a effectivement participé à la belle époque du Stade Français avec plusieurs titres de champion de France, et puis évidemment des sélections en équipe de France à partir de 2002 jusqu'en 2007. Moi, ce qui m'a toujours marqué chez lui, enfin évidemment, on l'a tous, je pense, remarqué d'abord par sa tignasse blonde peroxydée, qui était très à la mode à l'époque et qui d'ailleurs revient à la mode aujourd'hui. Mais voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui est sorti du lot, pas que par sa chevelure, mais surtout par sa capacité à allier à la fois des courses assez foudroyantes, et puis évidemment ses plaquages. Enfin, c'était vraiment le troisième ligne par excellence. On le qualifiait un peu de dur au mal, et je crois qu'il avait il avait aussi un appétit prononcé assez avéré pour le défi physique.
Oui.
On le voyait. Voilà, moi je pense que c'est les quelques souvenirs que j'ai de lui en tout cas sur le terrain.
Allez, super, merci beaucoup Alban. Restez jusqu'à la fin où nous allons débriefer un peu ce entretien avec notre Théo à nous. Et voici sans tarder notre entretien avec Rémi Martin. Allez, nous avons forcément parlé de ta carrière, ta longue carrière en tant que rugbyman professionnel, mais j'aimerais bien démarrer avec où tu es aujourd'hui, en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton carrière actuelle?
Alors, où je suis, alors j'habite moi dans un petit village aujourd'hui à Châteauneuf-du-Pape. Voilà. Ouais, très bon vin, effectivement.
Ouais, même les Américains connaissent Châteauneuf-du-Pape.
Voilà, ben je sais, c'est pour ça que c'est pour ça que je te le dis. Voilà, donc je suis aujourd'hui directeur de 300 commerciaux pour la foncière immobilière Carmila. Voilà, et je m'occupe du centre commercial à Saint-Jean-de-Védas, un à Nîmes et un à Beaucaire. Voilà, dans le 30, donc dans le Gard, et un dans le 80, et un dans le 34 dans l'Hérault. Tous ces centres commerciaux sont adossés à des carrefours, donc je fais partie du groupe Carrefour aujourd'hui.
D'accord. Donc, est-ce que c'était difficile pour toi de t'adapter on va dire, aux 35 heures au bureau plutôt que tous les heures sur le terrain? Bon, même si je sais très bien, c'est pas juste 35 heures, mais.
Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Bon, je fais plus de 35 heures aujourd'hui puisque voilà, on est sujet à suivre nos commerçants au quotidien. Donc, bien évidemment, je fais plus de 35 heures. Mais la reconversion a été, ben, c'est un concours. Pour moi, ça a été un concours de circonstances puisque j'avais pas du tout prévu au tout départ de faire ça. J'étais plutôt orienté sur de la préparation physique et être kiné. Donc voilà, donc c'était vraiment au départ en fait quand j'ai été formé pour le poste de direction de centre, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, beaucoup beaucoup d'informations et rester au bureau toute une journée pour moi ça m'était jamais arrivé.
En fait, parce que oui, j'imagine que le planning quotidien d'un athlète professionnel, c'est complètement différent.
Ah ben oui, un athlète professionnel, ça se lève, ça petit déjeune et puis ça va faire du sport. Ensuite ça déjeune. Ça fait un peu de sieste et ça refait du sport. Donc du coup, c'est vrai que ça change beaucoup. Et puis il faut prendre soin de son corps puisque bien évidemment en tout cas c'est notre outil de travail.
Et il me semble qu'avec toutes les responsabilités que tu as aujourd'hui, si on les chiffrait, il y a pas mal de zéros, hein. D'où est venue la confiance d'accepter un tel challenge?
J'avais vraiment pas prévu de faire ça. J'ai été formé pendant 6 mois. J'ai préféré signer un CDD plutôt qu'un CDI parce que j'ai dit autant, ça ne me plaira pas du tout et je retournerai à ce que j'avais commencé. Et puis finalement, au fur et à mesure, eh bien, ça m'a plu, j'ai compris le truc. Bon, encore, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre, hein, je suis sûr, mais aujourd'hui, je suis content, fier de travailler pour une foncière immobilière qui est voilà, Carmila. Et puis, je crois que j'ai trouvé. J'ai encore envie d'apprendre, hein, bien évidemment. J'ai encore envie d'évoluer au sein du groupe. Et puis, voilà, comme un peu une carrière professionnelle, c'est des objectifs qu'on se fixe, c'est des objectifs qu'on a. Au fur et à mesure des années qui passent, on se fixe des objectifs un peu plus hauts pour essayer de gravir les échelons et de. Et voilà.
C'était une question que j'avais. Est-ce que c'est un côté compétitif que j'entends là
Ben,
ou?
toujours. J'ai baigné pendant 15 ans des objectifs communs, des challenges qu'on se fixe, même personnels. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est des objectifs que je me fixe. C'est du challenge, oui. C'est du challenge. Du challenge au quotidien avec mes commerçants pour qu'ils aient le même but pour arriver au même, enfin, d'un point A à un point B, comment on fait pour y arriver et comment on va y arriver. Voilà. Et je fais pareil,
Ouais.
voilà, pareil dans ma vie.
C'est intéressant parce que je trouve que souvent on pense à des athlètes professionnels comme des personnes qui sont douées physiquement, mais j'ai l'impression surtout aujourd'hui que pour un athlète professionnel à ce jour, bah, il faut vraiment travailler le côté mental, pas juste le côté niaque, mais aussi on va dire les soft skills. Est-ce que ou le rugby t'a appris certaines soft skills que tu utilises aujourd'hui en entreprise ou lesquels ils ont appris?
Tout ce que j'ai appris, c'était, ben voilà, j'ai pendant 15 ans, j'ai fait du rugby, bien évidemment, et tout ce que j'ai appris dans ce sport, ben j'essaye de le mettre au quotidien dans ce que je fais tous les jours, essayer de créer un esprit d'équipe entre mes commerçants et moi, essayer d'avoir de la solidarité entre eux, donc voilà. Le commerçant de la restauration au bout aide bien évidemment le prêt-à-porter de l'autre côté de la galerie et vice-versa. Et voilà, ce que j'ai appris, en tout cas, ce que j'ai pu transpirer, en tout cas pendant 15 ans, j'essaye de le transpirer à mes commerçants.
Bien dit. Il me semble aussi que tu as passé un peu de temps en tant que consultant à la radio. C'était comment cette expérience?
Oui, ouais, effectivement, je travaillais pour un petit peu pour Sud Radio, donc c'était plutôt agréable. Alors c'est très particulier la radio parce que c'est vrai que on peut pas laisser parler les images parce qu'il y en a pas. Donc c'est pendant 2 fois 40 minutes, il faut tenir l'antenne et il faut parler. Il faut parler parce que les gens derrière en voiture ou derrière leur radio ne voient pas d'image, donc il faut essayer de combler et de raconter le mieux possible ce qu'on peut voir sur nous, en direct sur le terrain.
La bonne nouvelle pour moi, c'est ça m'apprend le vocabulaire et prononciation. Je suis un peu moins, mais j'ai l'impression.
Non, mais ça va. Je trouve que tu te débrouilles bien. Après, ça fait un moment que tu es en France.
Ouais, ça fait bien longtemps. Nous, parfois, on fait des émissions Rugby Retro Classics. Donc, on t'inviterait un jour pour commenter un de tes vieux matchs, si ça t'intéresse.
Ah bah, avec plaisir.
Bravo pour cette belle transition. Est-ce que vous gardez un contact avec le rugby aujourd'hui?
Oui, bien évidemment que j'ai un contact avec le rugby. Je bosse encore avec des boîtes qui pour le tournoi Destination avec l'équipe de France. Bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec la période actuelle du Covid, mais en tout cas, quand il y a des matchs, bien évidemment, je monte à Paris, je vais voir les matchs. Je suis invité régulièrement aux matchs du Stade français. Alors, toujours pareil, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais pour toutes les causes sanitaires qu'on peut connaître. Oui, je reste en contact, en tout cas avec le sport. Ça m'a bercé pendant la moitié de ma vie, on va dire. Donc, une grande partie de ma vie, une grande majorité de ma vie. Donc bien évidemment, c'est ancré. Bien évidemment, c'est encore là. Oui,
ouais. Ouais, parfait. Si on parlait rugby, alors tu as quand même gagné 3 fois la championne de France avec le Stade français, mais tu as aussi gagné d'autres championnats, donc avec ta toute première club au Bénin, et aussi le tout dernier club, donc si je le prononce bien, c'est Bedarid, si c'est bien ça.
Bedarid, alors il ne faut pas oublier, c'est une entente, c'est Bedarid Châteauneuf-du-Pape.
Ah, ok.
Donc j'y tiens, puisque j'habite là-bas aujourd'hui, et j'étais un des seuls châteauneuvois, en tout cas, pour jouer, en tout cas, dans cette équipe Bedarid Châteauneuf.
D'accord, il y a trop de syllabes pour moi, donc.
C'est exactement ça.
Alors, la plus grosse fête de célébration, c'était laquelle?
Ah, c'est difficile, parce que... C'est difficile parce que au Bénin, ça a été en 99 et c'était mon premier club. J'avais 18 ans et gagner un titre pour ta ville, pour ton village, pour ton club de formation, bien sûr, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais tu t'en rends peut-être pas forcément compte parce que tu es encore jeune. Et puis ensuite, il y a eu les trois titres avec le Stade français. Et puis ce dernier titre avec Bedarid, donc pour finir, donc c'est compliqué, elle est très compliquée. Mais si je dois choisir un titre, c'est le premier titre avec le Stade français.
Ah ouais.
Voilà, qui a été exceptionnel. Puis c'est surtout les jours après ce titre qui ont été terribles. Voilà.
Ça devrait être quand même un record, 5 championnats sur 3 niveaux différents de la France, c'est chouette quand même. Allez, retour.
Non, mais c'est cool, oui.
Allez, retour au Bénin, c'est là où tu as démarré le rugby?
C'est là où j'ai commencé le rugby à l'âge de 10 ans, oui, effectivement.
D'accord, c'est une histoire de famille ou?
Pas du tout, mon papa ne faisait pas du tout de rugby, dans ma famille, il n'y avait aucune personne qui faisait, les personnes de ma famille qui faisaient du rugby. Ça a été, j'ai essayé pas mal de sports, hein, le tennis, le foot, bien évidemment le foot j'en ai fait 3 ans, mais j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi. J'ai suivi mon cousin en fait sur un entraînement de rugby et puis ça m'a plu.
Et qu'est-ce qui t'a plu en fait?
Au début, c'est quand t'es gosse, donc forcément t'es content de te rouler par terre sans que personne te dise te roule pas par terre, tu vas être tout sale, tu vas trouver ton pantalon, enfin bon bref, c'est ce qui m'a plu en tout cas au départ, quoi. Voilà, c'est de pouvoir se dépenser sans que en, en se en, voilà, en faisant des petits tas, parce qu'au départ, c'est ça, hein, c'est des petits tas qu'on fait. Donc, du coup, en faisant ça, qui m'a donné le goût, en tout cas, d'aller plus loin plus tard.
Bah, je peux comprendre. J'ai commencé le rugby à 32 ans et c'était toujours pour la même raison, se rouler dans le boue et plaquer des gens.
Voilà.
À quel moment tu t'es dit, bah, tiens, je peux peut-être être payé pour ça, je peux peut-être devenir pro?
J'ai commencé à prendre conscience du truc très tard, puisque je suis parti de chez moi, j'avais 20 ans, et j'avais tous les clubs de France pendant 2 ans qui me côtoyaient parce que j'étais en équipe de France jeune.
Ah, ok.
Donc, qui voulaient que je rejoigne leur équipe. Donc, j'ai eu, en passant par Toulouse, Bourgoin, à côté de chez moi, enfin, Toulon, Castres, enfin, et pas mal de clubs. Et je suis parti la première fois à 20 ans, mais pour un club qui était Mont-de-Marsan, qui était pas forcément, qui faisait partie du top 16 de l'époque, et qui n'était pas forcément un club phare du top 16. Et c'était le club qui me proposait un métier à côté du rugby.
Ah, ok.
Donc voilà. Donc j'ai choisi ce club. Après, bon, je suis pas resté longtemps. Je suis resté un an, parce que le club est redescendu au bout d'un an, et je suis après parti à Paris. J'ai dit, bon, ben, je vais essayer professionnel, puis je verrai bien. Si ça marche pas, ben, je redescendrai chez moi à Norvège.
D'accord.
Et puis finalement, voilà, c'est voilà, à partir de 2001, où j'ai été pro à 100% au Stade français, ça a été dur, parce que je suis passé par des moments un peu compliqués, mais au vu de ma carrière, j'ai bien fait de faire ce choix. Quoi,
mais
voilà.
T'es marrant, parce qu'au début, je savais pas où il s'était au Mont-de-Marsan, donc je regardais sur le plan et j'ai pensé que c'était à côté de l'Ardèche, mais pas du tout en fait. C'est dans les Landes. Donc oui, c'était curieux de pourquoi t'es allé là, mais maintenant je comprends. Et en fait, aux États-Unis, je t'ai répondu à une autre question que j'avais, parce qu'aux États-Unis, on a une espèce de draft entre les niveaux universitaires et les niveaux professionnels. Donc le NFL, le NBA, tout ça, ils font leur draft. Et j'avais une question de comment est-ce qu'on est scouted ou scouté, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais comment est-ce qu'on est trouvé par les grandes équipes? Et en fait, tu as dit, bah, finalement, c'est en étant sur l'équipe nationale des jeunes.
Oui, ça aide, bien évidemment. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui passent par des centres de formation. Je ne suis pas passé par un centre de formation. Il n'y en avait pas beaucoup à mon époque qui ne sortaient pas d'un centre de formation. Donc, il y avait un centre de formation à Toulouse, il y en avait un peu partout. Et moi, c'est vrai que je suis parti d'Aubenas, je jouais en Pro D2, et je suis arrivé en top 16 à Mont-de-Marsan, et j'étais dans l'équipe première. Voilà. Et quand je suis parti de Mont-de-Marsan, j'étais dans l'équipe première au Stade français, et j'ai pu m'exprimer pleinement à Mont-de-Marsan et en suivant au Stade français. Mais c'est vrai que je ne sors pas du... En tout cas, quand on est repéré par des clubs, souvent, c'est quand on est dans un centre de formation, qu'on fait des bons matchs dans un centre de formation aussi. Pas que en équipe de France jeune, mais c'est vrai que ça aide quand même pas mal.
Donc en fait, on est arrivés tous les deux à Paris environ au même moment, 2000-2001. Pour moi, j'avais le jeune vingtaine aussi, et Paris, c'était juste magique. Est-ce que tu avais un peu le même ressenti, ou est-ce que tu étais un peu réticent d'aller dans la capitale sur une grosse équipe comme le Stade français?
Alors bien évidemment, quand tu es Ardéchois, un petit Ardéchois, où en Ardèche, il n'y a pas de train qui passe en Ardèche, il n'y a pas d'autoroute qui passe en Ardèche, et que tu te retrouves à la capitale, bien évidemment, ça fait peur au départ. Mais après, tu prends goût, parce que comme j'ai passé des moments difficiles, c'est que j'ai profité de la vie parisienne, peut-être un peu trop. Donc voilà. Donc quand je me suis reposé sur le fait, bon, il faut que je me calme un peu, parce que si je veux continuer longtemps à faire ce que j'aime et vivre de ma passion, il va falloir que je fasse attention à moi. Et voilà, au bout de 6 mois, je me suis calmé quand même. Voilà.
D'accord, donc tu es quand même sur cette grande équipe aussi, donc il y a une adaptation à faire sur le terrain. Est-ce que tu étais tout de suite sur le terrain, ou est-ce qu'il fallait encore te prouver un peu?
Ben, il fallait que je prouve, parce que j'avais derrière moi, enfin devant moi en tout cas, à ma place, j'avais quand même Christophe Juillet, Patrick Tabacco, Christophe Mauny, Richard Poole-Jones, Pierre Rabadan, et j'en oublie certainement. Voilà, qui était déjà au Stade français déjà depuis un moment. Et puis, la troisième ligne que j'ai citée juste avant, elle était toute en équipe de France. Tabacco, Mauny, Poole-Jones en équipe d'Angleterre, enfin, c'était Juillet en équipe de France. Donc, moi, petit Ardéchois qui venait d'un club de top 16 qui était descendu l'année d'avant, en Pro D2, il a fallu que je me batte pour espérer, en tout cas, pouvoir jouer. Voilà.
Oui.
L'entraîneur, c'était Connolly. Il faisait quand même confiance beaucoup aux joueurs qui étaient dans les équipes nationales. Je faisais pas partie du lot. Donc, il a fallu que je me batte pour essayer de gagner ma place.
En parlant de Patrick Tabacco, c'est lui qui nous a mis en relation. Donc je dis merci Patrick. Et nous avons aussi fait un entretien ensemble, où nos chers écouteurs pourraient écouter ça. Donc voilà, donc il fallait vous battre pour faire un peu de place, mais quand même un sacré équipe, parce que 2002 finaliste Champions League, 2003, non c'est pas Champions League, oui c'est Champions.
C'est pas
Pardon,
ça, c'était pas
c'est
Champions
pas.
League.
Ah oui, je pense toujours Heineken Cup, et chaque fois je le prononce
Ouais,
mal.
voilà.
Donc 2002, quand même finaliste pour la Heineken Cup, 2003, champion de France, 2004, champion de France aussi. Donc cette équipe, c'est vraiment un sacré équipe. Quels étaient les points forts en particulier?
Ah, les points forts, je crois que quand il est arrivé Nick Mallette, où on a été deux fois champion de France d'affilée, je pense qu'on avait la meilleure équipe de France, vraiment. On était tous internationaux, uruguayens, argentins, français, anglais. Enfin, il y avait toute cette équipe. Enfin, je pense en tout cas le point fort de ces 2 années-là d'affilée où on est champion, c'était notre paquet d'avant. Voilà, il y a Peter De Villiers, Sylvain Marconnet, Landreau. Après, il y a eu Benoît Auguste. Oradou, Mike James, qui était international canadien, enfin, et j'en oublie certainement, Pablo Lemoine, qui était pilier uruguayen. Enfin, on était, je pense, indéboulonnable. C'est pour ça que les 2 ans d'affilée où on était champion, on est quasiment premier toute la saison et on finit champion, ce qui est logique, voilà, presque.
Bonne nouvelle, c'est que maintenant je comprends le mot indéboulonnable. C'est un mot que j'ai appris récemment. En fait, on a des jeunes joueurs, des jeunes écouteurs parfois, et ils ne connaissent pas forcément cette
Ouais.
équipe. Et est-ce qu'il y a un joueur en particulier qu'ils devraient vraiment connaître? Par exemple, j'ai pensé, je sais pas, Domingo ou des choses comme ça. Mais peut-être.
Oui, effectivement, il y a Diego Dominguez qui est quand même qui a été énormément connu. Sur cette équipe-là, je pense que Peter De Villiers, il y a eu même, enfin, pas cette année-là, mais en tout cas, un peu après, il y a eu Fabien Galthié, donc qu'aujourd'hui on connaît tous bien et mieux. Christophe Dominici, bien évidemment. Voilà. Paix à son âme aujourd'hui, puisqu'il ne fait plus partie de notre monde, de notre grande famille du rugby.
En parlant de Fabien Galthié, donc en fait, je trouvais ça intéressant parce qu'il passait de ton coéquipier 1 an et après il est devenu ton coach. Et dans le monde d'entreprise, bon, ça arrive assez souvent, mais dans le rugby, est-ce que tout le monde l'attendait cette chance? Est-ce que c'était normal cette convention pour lui à
Alors,
l'époque?
effectivement, ça a été mon capitaine en équipe de France et au Stade français. Ça a été après mon coach, effectivement, pendant 4 ans à Paris, où on a été champion de France la dernière année en 2007. Et après, ça a été de nouveau mon coach quand je suis parti de Bayonne à Montpellier, où j'ai bossé encore avec lui pendant 2 ans.
Oui.
C'est sûr que ça fait. Ça fait bizarre, mais il avait en tout cas les épaules pour être. Ouais, bon, après, toute l'histoire fait qu'aujourd'hui, il est entraîneur de l'équipe de France, mais en tout cas, il avait les épaules pour être un grand entraîneur. Voilà. Alors, il fait pas toujours l'unanimité, mais en tout cas, pour certaines choses, il est très bon. Il est vraiment très bon.
Et tu parlais de cette équipe de 2007. En fait, on voit aussi des nouveaux têtes qui arrivent, Papé, Sarzanski, Parissé, Boxis, Hernandez, Kaiser. Donc c'est vraiment toute une nouvelle équipe avec ces nouvelles personnes. Est-ce que l'ambiance était la même? Est-ce que c'était à rebâtir une nouvelle équipe ou est-ce que c'était en continuation de l'autre?
Non, c'est une continuation de l'autre. Je crois qu'il y avait des anciens qui nous dirigeaient, enfin, qui nous montraient la voie. L'année où on a été champion de France en 2017, si tu vois l'équipe, enfin, Peter De Villiers blessé, Sylvain Marconnet blessé, Oradou, il rentre les 15 dernières minutes, il est blessé parce qu'il revient de blessure. Zardeschi qui revient de blessure. Mathieu Blain qui avait fait tous les matchs avec nous, était blessé. Cette finale en 2007, On la doit parce qu'on a on est ultra, ultra ensemble. Parce qu'on
Oui.
doit, on doit jamais la gagner, cette finale. Et on la gagne. Donc, on a été guidé pendant deux, trois saisons avant par les anciens, quoi, dont je faisais partie, des non, j'étais plus ancien que nouveau, c'est français, parce que c'était ma cinquième année. Et donc, bien sûr que cette équipe, enfin, il y avait une âme, en tout cas, bien, bien ancrée et bien ficelée par les anciens.
Parfait. Pour finir sur le Stade français, parfois j'essaie de faire une comparaison avec le NFL, où par exemple le Dallas Cowboys, c'est America's Team, c'est l'équipe de tous les États-Unis parce qu'ils sont le plus connus. Les Patriots, c'est un peu des Anglais, c'est des méchants, c'est des intelligents qui savent gagner. Baltimore et Pittsburgh, bah, c'est des grosses défenses costauds depuis 40 ans. Mais en fait, en rugby, comme j'ai appris un peu tard, je ne connais pas en fait le culture de ces équipes. Pour toi, quel est un peu le caractère ou le culture pour le Stade français?
Alors, on est une équipe quand même, enfin, à l'époque où je jouais, il y avait des joueurs de partout, de toute la France, mais du monde entier. Et c'est ce qui faisait la particularité de cette équipe, parce que quand je suis arrivé, moi, au Stade français, il n'y avait pas trop d'équipes encore qui étaient comme on pouvait l'être. On avait des Argentins, des Uruguayens, des Canadiens, il y en avait. Et c'est ce qui a fait cette âme du Stade français. Voilà, aujourd'hui, tous les clubs ont pas mal d'étrangers, mais avant, quand même, il fallait se resserrer. Et puis, on avait la particularité, quand même, au Stade français, c'est qu'on s'entraînait à droite, à gauche, jamais au même endroit. Enfin, je pense que tout ça fait que ça crée un lien qui est difficilement ébranlable. Voilà. Peut dire que c'est ça par l'âme du Stade français partait d'abord de ça, quoi. Il permettait de nous resserrer et d'avoir une vraie osmose quand on pouvait jouer ensemble.
Pendant ce temps, tu as quand même pu jouer avec les 15 de France, donc 23 sélections. Bravo. Est-ce que tu étais surpris par ta première sélection?
Surpris par l'engouement. Après, bon, il se trouve que, sans vouloir me vanter, j'ai fait toutes les petites équipes de France quand j'étais jeune. Je suis passé
Oui.
par França. Donc, pour moi, c'était un objectif. Donc, surpris, non. Voilà. Honnêtement, non. Après, surpris par l'engouement des gens, par la Marseillaise, par
Oui.
le Stade de France rempli, oui. Je m'étais donné les moyens, en tout cas, pour y arriver, et j'y suis arrivé. Donc, surpris, non, voilà.
Comme tu as déjà dit, c'était un objectif peut-être et tu as travaillé pour
Exactement,
l'atteindre.
exactement,
D'accord.
voilà.
Et qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand même, quand tu es sur l'équipe de France, tu es le meilleur à deux ou trois personnes à ta poste. Pour toi, c'était quoi ton marque de jeu? C'est ta spécialité?
Moi, j'étais pas un grand technicien de ballon, donc j'étais beaucoup, enfin, je courais beaucoup, ça m'intéressait beaucoup, donc j'étais dur au mal et dur sur l'homme. Après, j'adorais plaquer. Après, aujourd'hui, c'est sanctionné maintenant, mais avant, on pouvait plaquer, récupérer un ballon, donc aujourd'hui, c'est plus difficile parce que le plaqueur doit lâcher le plaqué. Enfin, le plaqueur doit lâcher le joueur qui est tombé au sol et se remettre sur ses appuis pour gratter le ballon. Avant, c'était moins le cas, donc j'arrivais à faire cet exercice, j'adorais. Hein. Je pouvais être, voilà, très rude sur l'homme.
Ouais. C'est marrant parce que je jouais toujours en foot américain, je jouais en attaque, donc je touchais jamais le ballon. En rugby, j'adorais plaquer, mais après, je pouvais courir avec le ballon. Je disais, ah, waouh, c'est génial ce sport. J'avais le droit de jouer à l'attaque. Deux grands slams quand même avec cette équipe, donc c'est quand même assez rare. Dont les six nations, on a en plus des Anglais, donc je te remercie pour ça. Si on parlait encore de cette équipe, qu'est-ce qu'il avait qui lui a permis vraiment de se dépasser comme ça?
Ce truc qui nous faisait gagner, on avait un entraîneur quand même qui nous faisait nous transcender, c'était Bernard Laporte. On connaissait bien comment il pouvait être avec une équipe et avec les hommes. Donc, du coup, le fait d'avoir cette personne en haut de l'équipe de France faisait du bien à pas mal d'entre nous. Enfin, voilà. En tout cas, c'était un homme qui pouvait nous transcender. Voilà. On avait envie de faire des kilomètres avec Bernard.
Ouais, et tu as eu la chance d'être avec lui, mais aussi Nick Mallette, Galtier aussi. Donc j'avais une question sur l'impact des coachs sur l'équipe et je viens d'entendre la réponse. Donc c'est vraiment qu'il a pu vous pousser, vous permettre de vous dépasser, en fait, c'est ça. Tu as quand même marqué 3 essais en bleu. Est-ce que tu peux nous raconter une?
Ah, oui, bien sûr. Je peux te raconter celui de l'Australie, pour moi, qui est le plus joli, puisque... un stade mythique, puisque c'est le Vélodrome à Marseille, on joue contre l'Australie. Donc c'était en 2005 et Gito, qu'on connaît tous, oui, puisqu'il a joué à Toulon, était numéro 10 de cette équipe d'Australie. Comme je te disais, j'étais coureur, mais j'étais pas quelqu'un qui est de rapide, et ce jour-là je crois, dans les 40 mètres adverses, et Gito arme pour taper, pour se dégager de son camp, et puis il se trouve que je contre le ballon. J'ai contré le ballon, j'ai continué mon effort un peu plus loin, il y a Josion qui me passe devant, qui tape un petit coup de pied, et je continue à suivre ce ballon qui roule. Il y a l'ailier qui revient, j'arrive avant lui, alors je ne sais pas comment, mais en tout cas j'arrive avant lui, j'attrape le ballon et je vais marquer. Donc pour moi, ça c'est un des plus bels essais de ma carrière. Je me rappelle déjà parce que c'était à Marseille, parce que ce n'était pas très loin de l'Ardèche, donc j'avais toute ma famille qui s'était déplacée. Et puis c'est au Vélodrome, donc c'est quelque chose de marquant, de super. J'ai encore en tête.
Tu le racontes très bien. En parlant d'autres matchs ici en France, il y avait quand même le Coupe du Monde en France en 2007. Est-ce que tu aurais préféré de voyager, on va dire, d'aller en Australie ou Nouvelle-Zélande pour un Coupe du Monde comme Patrick Tabacco, ou est-ce que tu étais plutôt content que ça se passe en France?
Alors j'étais content que ça se passe en France, puisque une Coupe du Monde. On se dit pas, tiens, paf, c'est bon, on est pris pour la Coupe du Monde. C'est des années de boulot pour essayer de pouvoir faire partie du groupe France, des 33 qui ont été pris cette année-là. Donc, c'est pas facile, donc il faut bosser, c'est très dur. Il y a certes une préparation en équipe de France, mais avant ça, il y a des matchs à réaliser pendant 3 ans avant pour essayer d'avoir cet objectif-là, faire une Coupe du Monde. Alors qu'elle soit en France ou ailleurs, peu importe. En France, le truc qui nous hantait, c'était faire cette Coupe du Monde en France, ok, mais gagner cette Coupe du Monde. Bon, ça n'a pas été le cas en 2007 et toujours pas aujourd'hui. Donc, j'espère que la prochaine, en tout cas, sera la bonne. Voilà.
C'est vrai que c'était un début de Coupe du Monde un peu difficile avec un perte contre l'Argentine, mais quand même, il y avait une super victoire des Français contre les All Blacks cette Coupe du Monde en 2007. Nous allons sortir un épisode spécial sur ce match en particulier. Est-ce que toi, tu as un souvenir de ce match en particulier que tu peux partager?
Alors, pour moi, c'était difficile puisque j'étais dans les tribunes ce jour-là. Compliqué pour moi, mais très content pour la France, puisque bien évidemment j'en faisais partie, même si j'étais dans les tribunes. Je trouve que le moment euphorique, c'est quand Elissade prend le ballon, qui prend le ballon et qui va dans son camp et qui tape un grand de chandelle pour dégager le ballon, parce que le match est fini et plié, et tu vois les Blacks désespérés à courir derrière Elissade. C'est perdu pour eux, alors qu'ils n'avaient pas envisagé ce programme-là. Quoi. Donc, pour moi, c'est cette image qui est superbe. Voilà.
Est-ce que tu as d'autres bons souvenirs de ce Coupe du Monde?
Alors, j'ai toujours pareil. C'est au Vélodrome. C'est mon deuxième essai, en tout cas avec les Bleus, où je marque contre la Géorgie. Alors, certes, la Géorgie...
Ah oui, j'ai vu cela.
Bien plus en dedans qu'une nation contre la France. En tout cas, j'ai réussi à marquer cet essai en coin contre la Géorgie. Donc, bien évidemment, ça reste un super souvenir, marqué un essai pour en 2007 pour la Coupe du Monde.
Parfait. Allez, si on parlait un peu de technique pour des gens comme moi qui, bon, qui peut-être, moi j'ai commencé en faux clos, donc en gros le plus gros c'est devant, le plus grand c'est en deuxième ligne et les plus fous furieux au niveau de plaquage c'est en troisième ligne. Toi tu as joué les deux, deuxième ligne et troisième ligne, est-ce que tu peux nous expliquer pour quelqu'un qui connaît, peut-être qui n'a pas joué beaucoup de rugby, quelle est la différence techniquement sur ces deux postes?
Il n'y en a pas trop, je pense qu'il y a quelques... J'ai commencé en troisième ligne, mais j'aurais pu très bien jouer en deuxième ligne parce que j'étais aussi grand que certains secondes lignes. Peut-être que je manquais un peu de poids, mais j'en voulais pas. Après, la différence, c'est que quand même, la particularité de troisième ligne, il est tout le temps sur l'interface, en tout cas, avec les trois quarts. Il assure la jonction entre les trois quarts et les avants, puisque c'est le premier détaché de la mêlée. C'est le premier qui est sur les premiers impacts, généralement, c'est lui qui les prend. C'est quelque chose de différent. Après, j'ai fait les deux, effectivement, mais j'ai fait les deux parce que je vieillissais et que je prenais du poids. Donc, du coup, j'ai glissé un peu en seconde ligne. La totalité de ma carrière, on peut dire que je l'ai faite en troisième ligne. En seconde ligne, ça va être plus dans le vif du sujet parce qu'il va falloir qu'il pousse un peu plus avec son pilier. Le troisième ligne est déjà parti.
Je voulais toujours jouer troisième ligne, mais j'avais toujours 20 kilos de trop. Bon, retour au top 14. 2008, en fait, c'est fin de période Stade français. Tu pars à Bayonne, où tu deviens aussi capitaine. Est-ce que c'était un besoin de plage ou qu'est-ce qui t'a attiré dans les Pays Basques?
Alors, il y avait besoin de tout, en fait. Je venais d'avoir mon avant-dernier enfant. Et on avait... comme objectif de pas élever nos enfants à Paris. Donc, du coup, on est parti, on a eu la possibilité de partir dans le sud. Et voilà, on l'a saisi. Donc, ça a été Bayonne parce que le président Alain Chelou de l'époque était quelqu'un de dissuasif. Voilà, il y avait, ça faisait 7 ans que j'étais à Paris. Je sortais d'un bouclier de Brennus, je sortais d'une Coupe du Monde un peu difficile, tourmentée. Mmh. Donc, il fallait que je change d'air et Bayonne m'a permis de changer d'air. Et puis, du coup, c'est vrai qu'il y avait une belle équipe, il y avait un projet de jeu, il y avait quelque chose au bout d'intéressant. Voilà, la première année, on visait les 6 premiers pour être européen, la paix, on est passé à un point non, même pas, on était match nul, mais enfin, à l'égalité entre le 6e et le 7e, mais on avait moins de points entre le verre. Donc, du coup, on a perdu notre objectif, et c'est vrai que ça a été compliqué, mais en tout cas, on fait l'année où j'arrive, on fait une superbe année, effectivement. Plus compliqué l'année d'après, mais en tout cas, la première année était superbe.
D'accord. Donc, et en plus, tu as pu monter en grade un peu aussi en étant capitaine.
Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ben, ça m'a permis d'évoluer en tout cas à mon poste et en tant que capitaine. Donc voilà, comme je dis, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. J'aime bien montrer l'exemple. Voilà, donc je pense que ça fonctionnait bien. Ça a bien fonctionné pendant un an.
Ça va, c'est la première expérience de management, en fait, dans un sens.
Exactement.
Ça va pas mal sur des CV. Allez, qu'est-ce que tu as tiré? Donc, c'était 3 ans à Bayonne et après Montpellier. Qu'est-ce que tu as tiré à Montpellier? Est-ce que c'est toujours dans le sud?
Alors, ça n'a rien à voir avec le sud, puisque cette année-là, j'ai un club étranger qui m'appelle, les WASP, et j'avais Toulon. Au tout départ, c'était les WASP ou Toulon. Donc, où on allait en Angleterre, où on restait en France. Donc, mon choix, c'était plutôt rester en France. Et voilà, j'avais que ces deux choix. Et jusqu'au dernier moment, j'ai attendu. Et puis, au dernier moment, j'ai eu Montpellier, m'a sollicité. J'ai tout de suite choisi Montpellier pour rejoindre, en fait, Fabien Galtier, qui m'avait entraîné pendant 4 ans au Stade français. Tout simplement parce que je savais à quoi m'attendre. Voilà, je pense que l'entraîneur, le coach est bon et même très bon, et j'avais besoin encore de retrouver cette sensation-là. C'est pour ça que je suis parti à Montpellier. Et j'ai laissé, bien évidemment, les deux, voilà, les deux autres clubs en stand-by.
Avec un troisième ligne de folie quand même, avec le Géorgien Gorgodzi, si je dis bien.
Gorgodzé, il y avait Fujian Souadrago, voilà, il y avait quelques très très bons joueurs, effectivement.
Ouais. Donc ta carrière professionnelle s'arrête à Béziers, mais comment? Est-ce que ça s'arrête tranquillement ou est-ce que c'est un peu difficile de quitter ce sport que tu aimes depuis tellement longtemps?
Bien évidemment, ça a été 2 ans super. Je suis capitaine de Béziers pendant 2 ans et je termine en ayant encore envie de jouer, donc sur une blessure au cervical. Donc ça a été un petit peu dur. Ça a été un petit peu dur, mais il a fallu se faire une raison. D'ailleurs, je me suis fait. Hein, et en tout cas, il a bien fallu se la faire. Voilà, c'était un petit peu dur parce que j'avais encore envie de jouer. J'avais encore envie de jouer. Voilà. Il n'y a pas d'autres solutions, d'autres réponses.
Et donc ça explique le dernier retour au rugby à Berdari Châteauneuf-de-Bappe hein, pour le dernier titre.
Oui, en fait, j'ai arrêté quand même pendant 2 ans parce que je continue à m'entraîner. Voilà, je faisais pas mal de sport, du crossfit, des triathlons. Et puis, quand j'ai eu mon job, que je suis aujourd'hui directeur de centre, je me suis rapproché de là où j'avais mes centres, donc à Châteauneuf-du-Pape, près de Châteauneuf-du-Pape. Et je connaissais très bien le président de Daryl, qui est maintenant un ami, qui me bassinait pendant des mois pour pouvoir essayer de me convaincre de rejouer. Et bon, ça n'a pas été dur pour lui, parce que j'en avais tellement envie que j'ai dit oui, et puis j'ai fait la saison. Alors ça, j'ai pas joué tous les matchs parce que le boulot me prenait beaucoup de temps, mais j'en ai fait quelques-uns, effectivement. Et c'était un plaisir, en tout cas, à chaque fois, de rechausser les crampons et de, même à un petit niveau, de rechausser les crampons et d'être à nouveau sur le terrain.
Dans le bout, comme avant.
Dans la boue, exactement. Exactement.
Allez, on va clôturer gentiment. Si on parlait rapidement de notre 15 de France aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois dans cette équipe, toi qui quand même faisais partie de beaucoup d'équipes du champion?
Bah, déjà, je vois un entraîneur voilà, que j'ai pas mal apprécié. Voilà, même s'il a beaucoup de défauts, je l'ai quand même pas mal apprécié. Je vois un entraîneur qui est un bon entraîneur. Je vois des joueurs jeunes qui sont plutôt bons dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils entreprennent. J'ai l'impression qu'il y a une solidarité autour de ce capitaine qui est superbe. Voilà, elle est encore jeune, cette équipe de France, elle a le temps de mûrir un peu, mais je trouve que, en tout cas, ce qu'elle propose aujourd'hui, le public ça faisait longtemps que le public attendait ça. Donc, je suis plutôt fier d'être français, d'avoir porté le maillot de l'équipe de France quand je vois cette équipe-là se bouger comme elle se bouge.
C'est vrai que c'est une équipe qui donne le plaisir. Major League Rugby aux États-Unis, ça commence, moi en tant qu'Américain, j'ai des doutes si ça va marcher, à ton avis. Est-ce que ça peut marcher le rugby aux States?
Ouais, ça peut marcher. Aujourd'hui, mes fils, j'en ai un de mes fils qui est à New York et qui joue au rugby. Bon,
Ah
ben,
ouais?
il est petit, hein, c'est un petit de 14 ans. Pourquoi pas? Je dirais oui. J'aimerais en tout cas que ça fonctionne qu'il perce en tout cas là-bas, là où il est.
Ouais. Bah, c'est marrant parce qu'à l'époque, pour moi, c'était un sport qui vraiment quelques personnes qui jouaient à l'université dans des tout petits clubs. Mais vraiment, je pense que personne connaissait de tout ce sport, sauf qu'il y avait une fois sur Friends un truc de rugby, mais c'est tout. Écoute, pour finir, à Pack de Potes, en fait, on est un groupe d'amis qui est réuni par le rugby. Je sais que tu as perdu un ami proche récemment. Est-ce que tu veux nous laisser un peu une petite histoire ou un souvenir ou un mot concernant Christophe Dominici?
Christophe, bien évidemment, on a fait quelques matchs en équipe de France, puisque voilà, il en a fait bien plus que moi, mais en tout cas, on a eu l'occasion de jouer en équipe de France ensemble. On a eu surtout l'occasion de se rencontrer au SAP français. Christophe, il a toujours eu, enfin, il était toujours là pour toi quand tu avais besoin de quelqu'un, en tout cas. Et il avait ce don, parce qu'on peut appeler ça un don, pour toujours avoir le bon mot et la bonne justesse. Donc, voilà, j'ai pas d'anecdote parce que, enfin, lui, bien sûr, j'en ai des anecdotes, mais j'ai juste triste aujourd'hui parce que même si c'était pas un ami où on s'appelait tous les jours, ça a été quelqu'un d'important dans ma vie, en tout cas pendant 6-7 ans, au SAP français. Voilà.
Merci Rémi, c'était un vrai plaisir de parler avec toi.
Avec plaisir, merci à toi.
Un grand merci à Rémi, et pour débriefer un peu, je suis très content d'avoir avec moi Théodore de Saint-Rémy. Salut Théo.
Ouais, salut Thierry. Très heureux d'avoir écouté cette interview que tu as réalisée, comme toujours, avec talent.
Ah, merci. Comme tu as joué dans l'autre club parisien à l'époque, c'est-à-dire Racing 92, est-ce que tu as joué contre lui ou tu l'as rencontré ?
Alors, en fait, moi, je jouais au Racing à l'époque, mais le Racing à l'époque était un club de Pro D2, puisqu'il est remonté à la fin des années 2000 dans l'élite. Donc, non, on avait fait quelques confrontations, notamment dans une espèce de Coupe de la Ligue, une fois où on avait pris une raclée, d'ailleurs, mémorable. Je ne sais pas s'il jouait ce match-là. Je me souviens que Patrick Tabacco l'avait joué en revanche. Mais Rémi Martin, moi, je le connais pas. J'ai joué de nombreuses fois contre certains de ces clubs, puisque Aubenas, c'était un club avec lequel, il le dit très bien, ils ont été champions de Fédéral 1, ce qu'on appelait groupe B à l'époque. Et ensuite, du coup, Aubenas a été pendant plusieurs saisons en ce qui s'appelait Elite 2 à l'époque, qui est devenu Pro D2 après. Donc avec le Racing, on a souvent été joué à Aubenas Vals. Vals, du VALS, du nom d'une eau pétillante, eau minérale, qui est très locale, une eau ardéchoise délicieuse d'ailleurs. Quand je jouais contre Benas, Rémi Martin était déjà parti à Mont-de-Marsan. Donc, je n'ai pas joué contre lui à Benas, peu importe. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette interview, c'est l'interview d'un passionné de rugby. Il dit avec beaucoup d'humilité, ouais, c'était pas trop mon univers, je joue au foot, au tennis, à d'autres choses. Mais en fait, c'est un garçon qui est 5 fois champion de France, ce qui est quand même pas rien, avec 3 clubs différents, 3 fois dans l'élite, et puis une fois en groupe B, Fédéral 1, une fois en Fédéral 2 à la toute fin de sa carrière à Bédarry de Châteauneuf-du-Pape. Et il dit, j'avais arrêté, j'ai repris, le plaisir de rechausser les crampons, d'être un peu le papa d'une équipe, et puis d'aller chercher un titre. Je trouve que ces titres-là de Fédéral 2, dans les souvenirs des joueurs, des amoureux de ce sport, ils sont parfois plus chers à leurs yeux encore que des grands titres, on va dire, médiatisés, surmédiatisés, parce que c'est des titres d'aventure et de bande de copains. Quoiqu'au Stade français, on voit aussi, c'est pour ça que ça doit être un bon camarade, ce garçon-là, qu'ils étaient dans une histoire d'aventure de copains. Il le dit, notamment le titre, je crois, de 2007. Bon, ils étaient brinque-ballés un peu à droite à gauche. Ils étaient un peu les premiers à voir plein d'étrangers. Ils se construisaient leur propre identité. Ils n'avaient pas de stade d'entraînement à l'époque. Ils n'avaient pas encore piqué le stade de l'ex ACBB, le Sceau du Loup, qui est maintenant leur lieu d'entraînement. Il y a eu un conflit là-dessus, d'ailleurs, entre les clubs, qui a été assez marrant au début des années 2010. Mais on voit bien qu'ils avaient à ce moment-là peu de choses, juste des joueurs de talent, un président qui avait du talent aussi, et l'envie de gagner comme des copains, un peu comme des matchs de Fédéral 2. Et quelquefois, ça me fait penser, tu sais, tu connais peut-être ce film absolument génial, Thierry, qui s'appelle Les Indians, qui est cette équipe de baseball.
Ah oui, Major League, oui, ça, avec Charlie Sheen.
Dont le président a juré qu'il serait dernier. Et c'est une présidente, d'ailleurs, je crois, qui finit par leur couper l'eau chaude dans les douches, à faire tout pour qu'ils perdent. Et en fait, eux, ils gagnent. Et j'adore ce film parce que ça révèle aussi combien, dans le sport collectif, quelquefois, c'est pas une affaire d'argent, c'est pas une histoire de projet, d'infrastructure, de machin, c'est une affaire de copains. Et dans le rugby, on le sent, on le sait. C'est avant tout l'âme qu'il y a dans le vestiaire entre 15, 22, 30, 40 joueurs pour aller chercher un titre, bien sûr, qui fait que ça marche ou pas. Et on voit bien que Rémi Martin, c'est un garçon qui s'est épanoui dans ces contextes-là. T'es pas champion de France en groupe B, en Fédéral 2 et 3 fois dans l'élite, sans être un camarade de vestiaire et un mec qu'on a envie de suivre. Voilà.
Génial, tu dis ça c'est super bien. Et en plus, il a une vie après rugby qui correspond un peu à la tienne aussi, parce que dans la vraie vie, tu es directeur commercial tout comme lui.
Oui, bah, souvent, en fait, les gens qui ont aimé ce sport et qui ont eu un peu de charisme et de leadership dans des équipes arrivent à finalement prolonger ce goût pour le charisme et le leadership. Et c'est vrai que souvent, l'image d'Épinal, c'est manager des commerciaux. Donc, on a, parce qu'il y a un côté challenge collectif, donner envie, savoir se retrousser les manches, aller au feu, aller au combat. Et ça, c'est très commun, finalement, aux valeurs du sport co et aux valeurs de la réussite en équipe. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait des sports co et qui ensuite réussissent dans ces dimensions collectives de commerce. Moi, je pense qu'en plus... il a un charisme physique. Rémi Martin, c'est un garçon qui est assez grand. Il avait ce casque d'or un peu à la Jean-Pierre Rive, oui. Cette tête blonde qu'on voyait. Il aimait aller au contact. On voyait sa touffe blonde un peu se secouer là, à l'impact et bien souvent avancer d'ailleurs. Et voilà, c'est un peu comme un trophée, un porte-drapeau, quelque chose. C'est dans une mêlée historique et moyenâgeuse, c'est l'espèce de chevalier qu'on a envie de suivre. C'est des mecs qui se voient au combat et sur le champ de bataille. Il a ça tout à fait, je trouve, ancré dans sa personne, Rémi Martin. Alors, j'ai pas le plaisir de le connaître, mais je suis persuadé qu'il s'éclate. Il le dit d'ailleurs, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, etc. Il s'éclate encore aujourd'hui comme il s'est éclaté avant. Ouais. J'ai aimé aussi... son humilité, on sent qu'il parle un peu avec douleur aussi, voilà, de cette Coupe du Monde 2007, il finit un peu en tribune, c'est un peu difficile, mais il a quand même 23 sélections en équipe de France. Je me rappelle très bien de l'essai qu'il décrit contre l'Australie, où il avait à la course, alors qu'il dit je suis pas très rapide, mais il avait fini par être au bon endroit au bon moment, peut-être bien connu des amoureux de rugby dans les années 2000. Voilà.
Super, bah, aussi, il y avait un des anciens clubs de Rémi Martin qui était dans les news cette semaine, Mont-de-Marsan.
Oui, alors ça, c'est une histoire absolument géniale. D'ailleurs, on a mis un petit truc sur le Facebook. On a un dénommé Russell Westbrook, qui est le magnifique nom américain, qui est meneur au Washington Wizards et qui s'est pointé en tribune. Alors, est-il blessé ou est-ce qu'il n'était pas sélectionné d'un match de son équipe avec le maillot collector du titre de champion de France de Mont-de-Marsan 1963, donc c'est un coup de pub fantastique. visiblement, ce garçon-là est un féru de mode, il aime beaucoup, et il y a eu une boutique éphémère, ils ont un peu enquêté, une boutique éphémère qui a été créée là-bas dans le coin d'un type qui vend des maillots un petit peu old school, etc. Il a adoré celui-là, il l'a mis. Et c'est vrai que c'est une rencontre complètement improbable entre le sport US et le sport français des années 60. J'en profite pour saluer, évidemment, si on a des auditeurs dans les Landes, et en particulier à Mont-de-Marsan, tous les Montois, c'est une petite ville, hein, Mont-de-Marsan, donc aujourd'hui ils sont en Pro D2. J'ai lu sur un article de 20 minutes qui dit « oui, ce club qui végète en fin de Pro D2 ». J'ai envie de dire aux journalistes, t'as qu'à mettre ton cul sur un terrain de rugby en Pro D2, tu verras ce que c'est. Ils végètent pas, ils font ce qu'ils peuvent. C'est une équipe emblématique du rugby français, donc on parle pas comme ça d'une grande équipe. Moi, ça m'énerve. Et je fais un petit coucou à mon copain Renaud, que ça a énervé aussi. Je suis bien d'accord avec lui.
Bah parfait, bah merci beaucoup Théo. Et tu as aussi parlé de baseball, donc juste pour dire que je serai sur une émission de baseball très bientôt qui s'appelle À coup sûr, pour parler un petit peu de baseball aux États-Unis et en France. Donc voilà, un autre podcast à écouter. Et voilà, c'est la fin d'année pour nous.
Ouais, bah c'est la fin d'année, on va souffler un peu. On a un beau cadeau de Noël à faire à nos écouteurs, Thierry.
Oui, donc revenez en 2 semaines, donc ça va être le 6 janvier 2021, pour notre prochain épisode, et ça va être un autre Rugby Retro Classics, donc c'est France-Nouvelle-Zélande 2007, et franchement, ça, on a passé un super moment.
Ouais, on s'est éclaté, on a enregistré ça il y a quelques temps déjà, donc on est très très impatients de que vous l'écoutiez, que vous nous disiez à quel point vous l'avez aimé. C'est vrai que génération des années 2000, hein, c'est la génération de Rémi Martin, avec un match qui a marqué son époque, ce retournement en fin de match, l'entrée de Michalak, tout le machin. Tout le monde s'en souvient assez bien, les 7 Josion pour éliminer les Blacks en quart de finale. Très grand souvenir, peut-être prémonitoire, sait-on jamais, puisque 2023, on sait maintenant, hein, qu'on va rencontrer les Blacks d'entrée à la Coupe du Monde. Quelle chance d'avoir un France All Blacks en ouverture de la Coupe du Monde 2023. C'est vraiment un cadeau des dieux du rugby, ça.
Ça va être génial. Écoute, merci à toi Théo, merci à bien sûr Rémi Martin et tous nos chers écouteurs. Oui, donc aussi l'année prochaine, si je peux parler d'un petit projet personnel, j'ai décidé de lancer un podcast sur la perte de poids, parce qu'en tant qu'ancien première ligne, j'ai quelques kilos à perdre quand même. Je fais ça pas toute seule, je suis accompagné par Fanny Coutin, qui est un diététicienne,
c'est dur à dire.
Oh là là, grave. Et voilà, donc ça s'appelle Un peu plus léger podcast, et ça, c'est un podcast sur la perte de poids, et ça lance le 1er janvier 2021.
Fantastique, juste après les réveillons, donc c'est parfait.
Voilà, exact. Allez, Merry Christmas to you and Happy New Year.
Happy New Year, bye bye, salut à tous.
Ciao, ciao.